Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Il me semble que ça doit être l'épisode 4 ou 5 du Smart Training Podcast. Un podcast aujourd'hui qui va être assez rapide, on pourrait appeler ça une pensée du jour. Une pensée du jour sur l'expertise des entraîneurs et l'expertise des athlètes. Alors ça va être assez rapide, j'espère que ça ne va pas durer une heure. Le but c'est de vous partager un petit peu une pensée que j'ai eue il y a quelques jours et que je trouve pertinente, alors peut-être pas dans son contenu mais au moins dans son questionnement. Et c'est quelque chose qui, je pense, mérite d'être un petit peu plus approfondi, sur lequel, je pense, des réflexions doivent avoir lieu pour pouvoir mieux appréhender cela. Donc, j'espère que cet épisode va vous plaire. N'hésitez pas à me faire des retours, puisque c'est un épisode qui, justement, on va dire au contraire de ce qu'on peut retrouver dans les interviews, où bah, il n'y a pas forcément beaucoup d'échanges avec le public, étant donné que c'est déjà un échange entre un invité et le podcasteur. Là, c'est vraiment une sorte d'appel pour avoir des retours de votre part et essayer de voir un petit peu comment vous voyez les choses à partir de ce que moi je vais dire, évidemment, puisqu'on reste quand même sur un podcast où je suis tout seul aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne écoute et à très bientôt. Ok, c'est parti. Alors, le thème de ce podcast, qui est donc l'expertise des athlètes et des entraîneurs, je vais le séparer en deux, donc on va commencer par les entraîneurs. Alors, pourquoi j'ai pensé à ça? En fait, je me rends compte, plus j'avance cette année dans mon double contrat dans deux clubs professionnels, volley, basket, plus je me rends compte que chaque entraîneur est différent. Là, je parle des entraîneurs spécifiques, mais je parle des entraîneurs adjoints, je parle des entraîneurs de catégorie jeune. Et en relation avec ça, j'ai également fait pas mal de recherches, écouté pas mal de témoignages, des reportages dans lesquels on voit intervenir des entraîneurs, et je me rends compte en fait que chaque entraîneur est unique, évidemment, mais par-dessus tout que chaque entraîneur a un background vraiment différent. Alors quand je parle d'entraîneur, je parle bien d'entraîneur au sens large, je parle pas d'entraîneur spécifique, je parle d'entraîneur préparateur physique, c'est pour moi un entraîneur, un coach, un entraîneur. L'entraîneur adjoint ou l'entraîneur développement individuel, c'est aussi un entraîneur à part entière. L'entraîneur manager, le head coach, c'est aussi un entraîneur. Et puis on pourrait même extrapoler, aller sur le staff médical, les physios, sur les prépas mentaux. Alors, voilà. Toutes ces personnes, pour moi, représentent des entraîneurs, puisqu'ils ont une fonction en ce sens, de entraîner les athlètes sur différents facteurs. Donc on ne va pas faire de différence ici, et mon but, c'est vraiment pas de... Bon, on va peut-être faire quelques petites différences quand même, mais mon but, c'est pas de cibler un type d'entraîneur. Quand je parle d'entraîneur, c'est vraiment la globalité. Donc ma réflexion, elle part de cette analyse et de cette observation de différents styles d'entraîneurs, de différents styles de managers, de personnes. Et je me rends compte, quand j'analyse un petit peu les interventions, les compétences de chacun, et que je me permets justement de faire un retour sur ça, qu'on se retrouve aujourd'hui en France notamment. Après, moi, je n'ai pas le recul sur les autres pays, même si j'ai pu entendre des choses qui se font au Portugal ou dans différents pays avec d'autres cultures dans l'entraînement. Mais en tout cas, pour ce qui est de la France, on se rend compte que beaucoup d'entraîneurs, surtout à haut niveau, donc normalement des entraîneurs experts, sont des personnes qui ont eu soit un cursus en tant que joueur, soit un cursus fédéral, et je retrouve peu d'entraîneurs, sauf dans le monde de la préparation physique, qui ont eu des cursus universitaires, ou alors peut-être une licence maximum, mais rarement des masters, et encore plus rarement des thèses. On a très peu de docteurs qui sont entraîneurs ou head coach dans des staffs, on a très peu de docteurs ou masters qui sont assistants coach dans des staffs. Et là je parle plus de la partie technico-tactique, hein, entraîneur de handball, entraîneur de basket, de volley, de foot, alors que pourtant il me semble que c'est potentiellement des postes où ce serait intéressant d'avoir des gens qui ont des compétences pluridisciplinaires. On retrouve souvent des entraîneurs qui sont hyper spécifiques dans leur approche, c'est-à-dire hyper pointus sur les aspects technico-tactiques, hyper pointus sur les aspects sur d'autres types d'aspects, pardon, mais qui ont parfois moins de compétences sur l'approche psychologique de la perf, moins de compétences sur l'approche physiologique. Et dans un sens, c'est assez cohérent, étant donné qu'aujourd'hui on travaille en staff et que c'est à chacun d'apporter des compétences spécifiques à son champ d'intervention pour pouvoir faire en sorte que l'ensemble fonctionne de manière optimale. Maintenant, moi, ma réflexion à partir de là, c'est de me dire, ok, mais si moi, en tant que préparateur physique, je me limite simplement à la préparation physique, je fais une grosse erreur dans l'accompagnement de mon athlète. Ça fait sens aujourd'hui de prendre en considération les aspects mentaux, mais également de comprendre la pratique. Moi, dès que je suis arrivé en master, on m'a dit, oui, la préparation physique, c'est déjà une question d'analyse de l'activité. Si tu ne sais pas analyser l'activité, tu ne pourras pas faire de la préparation physique de manière qualitative. Aujourd'hui, je suis plus ou moins d'accord avec cette information-là, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un travail d'analyse à faire quand tu es préparateur physique pour pouvoir intervenir auprès d'athlètes. C'est pareil quand tu es physio, pour pouvoir comprendre l'athlète et les contraintes qu'il subit sur le terrain, il faut comprendre l'activité à un minima. Et donc si on extrapole un petit peu, il me semble qu'en fait finalement, même l'entraîneur principal ou l'entraîneur technico-tactique ou même l'adjoint devrait également aller en ce sens, puisque s'il ne comprend pas l'ensemble des process que l'athlète a à prendre en considération, il peut pas, de mon point de vue, avoir une approche holistique et donc optimiser au mieux la performance. Je vais essayer de vous, en tout cas moi, de vous témoigner ce qu'est pour moi un entraîneur expert, un entraîneur, en tout cas, pardon, entre guillemets, l'entraîneur 2.0, l'entraîneur qui, je pense, aujourd'hui, fait l'entraîneur du futur dans la performance sportive. Alors, au-delà de l'aspect compétences, parcours universitaire, diplômes fédéraux, différents DU, c'est pas, on va pas revenir là-dessus. Chaque formation a ses avantages, chaque formation a ses désavantages. Parfois trop éloigné du terrain, parfois trop éloigné de la science. Mais en tout cas, pour moi, l'entraîneur expert, peu importe qu'il soit préparateur physique, préparateur mental, entraîneur spécifique, c'est un entraîneur qui est hyper ouvert et qui a réussi tout le temps à se remettre en cause, qui est tout le temps dans une recherche d'optimisation de ses compétences, avant même d'essayer d'optimiser les compétences de ses athlètes, et qui surtout a une vue d'ensemble, c'est-à-dire une vue sur les différents éléments qui font la performance. On peut diviser la perf en fonction de la vision de chacun, on peut diviser la perf en différents grands blocs. Si on prend simplement la perf dans un sport collectif, on va parler des aspects physiologiques, biomécaniques, enfin l'aspect physique. Les aspects mentaux, psychologiques, cognitifs, etc. On va parler des aspects mentaux. Et les aspects techniques, stratégiques, on va dire les aspects spécifiques avec la technique spécifique à un sport, etc. Donc ça fait trois grands pôles qui sont à prendre en considération et sur lesquels je pense que l'entraîneur expert, donc encore une fois, quand je dis entraîneur, c'est au sens large, hein, qu'il soit préparateur physique, entraîneur spécifique ou préparateur mental, ou etc., doit avoir une vue d'ensemble sur tous ces éléments. Pour moi, aujourd'hui, un entraîneur expert, c'est quelqu'un qui, quand on lui parle de motivation, il peut répondre de manière cohérente sur ce qu'est la motivation, et pas forcément ce qu'est la motivation selon une discussion de comptoir, si je peux me permettre, mais plus selon une approche scientifico-empirique, j'ai envie de dire, on va dire, une base concrète de ce que représente la motivation avec les différents champ d'application de la motivation. Pour moi, un entraîneur expert, si on parle de la motivation, c'est un entraîneur qui connaît les théories d'autodétermination, qui peut citer et expliciter ce qu'est la motivation intrinsèque, extrinsèque, et comment la motivation arrive, peut disparaître, quels sont les moteurs et les leviers en tant qu'entraîneur pour pouvoir aider un athlète sur cette question, enfin sur cette problématique-là. Voilà. Des bases, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'être ultra spécialiste de la motivation, parce qu'il y a des gens qui sont docteurs en motivation, si je puis dire, et qui connaissent l'ensemble des éléments sur cette question-là. Pour moi, l'entraîneur, au contraire, il doit avoir quand même une vue et une approche sur ces éléments-là. Et il ne s'agit pas de dire, voilà, la motivation, il faut être motivé, c'est du sacrifice. Hein. Non, on parle de choses cohérentes sur lesquelles on peut, à partir d'un champ scientifique, réussir à apporter des solutions concrètes de terrain. Et là, je parle de la motivation, mais c'est un exemple. Ça peut être sur les aspects physiologiques, la réhabilitation, la préparation physique, la considération des différents éléments qui permettent d'optimiser la récupération, à savoir, oui, ok, je prends en considération le fait que, bon, dans la récupération, aujourd'hui, il y a les facteurs du sommeil, de la nutrition, la gestion de la charge d'entraînement, et à côté de ça, il y a tous les facteurs adjacents qui peuvent être plus ou moins utiles, plus ou moins efficients, parfois un peu useless, mais qui sont en tout cas présents. On en a déjà parlé, mais les massages, les bains froids, etc. Je pense qu'un entraîneur, préparateur physique, évidemment, parce que c'est son champ d'intervention prioritaire, mais du coup, un entraîneur technico-tactique doit aussi comprendre, et à l'inverse, je pense également qu'un préparateur physique doit comprendre un petit peu le champ d'intervention stratégique ou technico-tactique dans lequel il intervient, à savoir, ok, dans le basket, si l'entraîneur parle spécifique, je dois comprendre ce qu'il dit. Si j'ai pas fait l'effort de comprendre ce dont il parle avec ses athlètes, comment on peut exiger de lui que lui comprenne ce que vous vous apportez en tant que préparateur physique ou en tant que physio, etc. Donc je pense que c'est un échange de bons procédés. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, enfin, pour moi, l'expertise, c'est aussi une capacité d'avoir une vue d'ensemble, une approche holistique sans être forcément très précis. Et pour moi, l'entraîneur de demain, c'est un entraîneur qui, quand on parle des aspects psychologiques, comprend mais peut aussi faire appel à quelqu'un de plus compétent que lui, par exemple un préparateur mental, sur des éléments très pertinents pour un athlète, à savoir, ok, ce gars-là a un problème de gestion de ses émotions, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Je sais que pour gérer les émotions, il y a différents outils, peut-être qu'il y aurait des routines à mettre en place, peut-être qu'il y aurait un travail de pleine conscience à mettre en place, je sais que ça existe, bon, j'ai pas le temps ou j'ai pas les compétences pour m'en accaparer et apporter à l'athlète ces éléments-là, je vais appeler un professionnel qui est compétent sur ce sujet pour accompagner mon sportif. Mais par contre, j'ai su cibler le problème, dire ok, c'est ça le problème, ok, j'ai besoin de ça. Parce que pour moi, c'est un gain de temps énorme quand l'entraîneur qui est au contact quotidien des athlètes a cette capacité-là, bah, il passe un gap, on gagne du temps et on met pas 3 mois à comprendre des choses. Et pareil, si je dois faire un parallèle, c'est pareil dans les phases de réhabilitation ou sur une gestion d'une pathologie. Un entraîneur qui comprend la pathologie, et là pour le coup, on peut parler du coup d'un préparateur physique. Quand un préparateur physique comprend la pathologie spécifique de son athlète, une tendinopathie par exemple, il n'a même pas besoin de demander au physio qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. En fait, il a les compétences pour. Il n'est pas physio, donc il ne va pas faire les premiers soins et les premiers steps de la réhab. Mais par contre, il sait comment adapter sa préparation physique en salle de musculation. Il sait comment apporter des éléments supplémentaires au travail du physio. Et surtout, il sait comment adapter sur le terrain les éléments qui sont indispensables à adapter pour éviter qu'il y ait des pics et des phases aiguës de douleur chez son athlète. Et c'est pareil pour les adaptations de la charge au niveau technico-tactique, c'est-à-dire que pendant l'entraînement, je prends l'exemple du basket, pendant l'entraînement basket, si le préparateur physique est là et si l'entraîneur spécifique est là, et que les deux comprennent un petit peu le langage de chacun, et ben on peut adapter du coup la charge pour que l'athlète ne soit pas dans une situation d'overload alors qu'il est déjà dans une situation délicate vis-à-vis d'un tendon, par exemple une tendinopathie du tendon d'Achille par exemple. Donc pour moi c'est vraiment ça, c'est cette compréhension globale de tout à chacun et la gestion des différents éléments sans forcément être expert et hyper pointilleux dans chaque détail, puisqu'aujourd'hui c'est pas pour rien, il y a des sport scientists qui vont dans des gros clubs où où il y a des moyens, je veux dire où il y a des sous, c'est parce qu'on peut pas tout, on peut pas tout savoir, il y a beaucoup trop de choses à savoir, il y a énormément de champs disciplinaires et c'est beaucoup trop compliqué de tout savoir. Par contre, avoir une vue d'ensemble, et ben c'est quelque chose qui pour moi permet de gagner du temps et surtout permet d'être très précis. Et ça me fait penser à quelque chose d'autre. Là, on parle plus, je vais plus parler des entraîneurs spécifiques technico-tactiques. Donc finalement, les head coach, ils ont une mission pour moi qui est très compliquée dans le sens où c'est eux qui sont responsables de la performance globale, c'est-à-dire du management, de la gestion du staff, des aspects psycho-physio. Finalement, c'est l'entraîneur qui a le head coach qui a les clés pour l'ensemble parce que enfin, en tout cas, l'endroit où passe le plus de temps un athlète, surtout en sport collectif, c'est sur le terrain. Et c'est sur le terrain, finalement, qu'il y a le plus de temps de travail sur les aspects psycho, sur les aspects physio, et donner des clés et savoir adapter cet ensemble, pour moi, c'est une énorme qualité. Et peut-être un peu moins aujourd'hui dans les staffs pro, dans le sens où il y a beaucoup de préparateurs physiques, du coup, il y a moins besoin d'avoir cette approche au niveau physiologique, biomécanique, etc. Par contre, au niveau psychologique, je pense que c'est vraiment un outil et des connaissances à avoir qui sont indispensables pour l'entraîneur 2.0. Puisque aujourd'hui, l'entraîneur, c'est le premier préparateur mental d'un athlète. Quoi qu'on en dise, surtout dans un sport professionnel qui n'a pas encore démocratisé l'approche préparation mentale, il n'y a pas beaucoup de préparateurs mentaux pardon, qui sont présents au quotidien avec les staffs sportifs. Parce que question économique, question de choix pour staffer, etc. En tout cas, du coup, la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, le premier préparateur mental, c'est l'entraîneur. Le problème, c'est que si l'entraîneur ne comprend pas les aspects cognitifs, psychologiques, peu importe comment on appelle ça, ou en tout cas sur quel champ on se base, ben, il risque pas de pouvoir avoir les clés pour pouvoir aider l'athlète. Et on se retrouve souvent avec des athlètes sur le terrain qui vont soit s'énerver, soit, je sais pas, avoir des difficultés pour gérer les moments à haute tension, être submergé par un stress. Et l'entraîneur n'a pas les solutions. Et il va simplement dire, ah là, lui, il m'agace, il comprend pas, nan, nan, nan. Et en fait, c'est pas qu'il comprend pas, c'est qu'il a pas les, c'est que la tête n'a pas les clés pour pouvoir réussir et s'améliorer, comme on s'améliore sur l'aspect technico-tactique, comme on s'améliore sur l'aspect physique, et ben, il y a aussi des clés à avoir pour pouvoir s'améliorer au niveau psychologique. Et évidemment, quand on n'a pas un préparateur mental à temps plein, ça me paraît indispensable que l'entraîneur, le head coach ou l'assistant coach, ou je sais pas, quelqu'un dans l'entourage proche du joueur puisse lui apporter des compétences au quotidien. Puisqu'on se retrouve avec beaucoup d'athlètes qui vont voir des préparateurs mentaux en dehors sur la off-season. Et c'est déjà une très belle première étape. Maintenant, la quasi-totalité de la carrière d'un athlète se fera en club. Je parle du sport co spécifiquement, mais après on peut extrapoler sur d'autres sports. Se fera en club auprès d'une équipe et dans une salle et sur le terrain spécifique au quotidien pendant plusieurs heures par jour. Donc en fait, c'est ici et c'est ici et maintenant que ça doit se faire. C'est là que le travail principal doit se faire. Et évidemment, à côté, on peut rajouter du travail plus spécifique, comme on va le faire en préparation physique finalement. Puisqu'en préparation physique, ok, on va rajouter des blocs en dehors dissociés, ce qu'on va appeler dissociés. Mais en plus, on va aussi ajouter des contraintes physiques sur le terrain. Et comprendre ces contraintes physiques, c'est comprendre finalement l'approche physique que l'athlète doit avoir pour pouvoir performer. Donc pour moi, c'est un peu le résumé de comment je vois l'entraîneur 2.0. C'est un entraîneur qui a une vue d'ensemble, une approche holistique et des compétences pas forcément hyper pointues, mais des compétences sur tous les facteurs importants de la performance, que ce soit au niveau biomécanique, physiologique, comme je l'ai dit, mais aussi psychologique. On peut parler de gestion des émotions, on peut parler de la gestion du stress, on peut parler de plein d'outils, de fixation d'objectifs, on peut parler de plein d'outils. Et en plus, ça se développe vachement parce qu'on voit beaucoup d'entraîneurs dynamiques qui vont aller faire des entretiens avec les athlètes en début de saison pour voir un petit peu comment se situe l'athlète, quels sont les tenants et aboutissants du projet de l'athlète. Bah, tout ça, pour moi, ça vient en relation avec ces compétences-là. Et c'est quelque chose qui, moi, me semble hyper important. Mon parcours universitaire fait que j'ai un énorme biais sur ça, dans le sens où pour moi, l'entraîneur 2.0, c'est un entraîneur qui a passé des années à travailler sur le sujet, donc potentiellement qui a fait une licence, un master, un doctorat, mais ça peut être aussi un entraîneur qui a passé des diplômes fédéraux et qui, à côté de ça, pendant des années, a été en auditeur libre, voir ce qui se fait à l'université, qui a été écouter des podcasts tous les jours, qui a été à des séminaires, qui a su saisir les bons séminaires, puisqu'on se retrouve aujourd'hui aussi avec pléthore de formations qui sont plus ou moins pertinentes, notamment dans le domaine de la performance, avec, c'est triste à dire, mais parfois des gourous, des charlatans qui se permettent de faire des formations. Parce que c'est un business, il y a du marketing, il y a un business, il y a des sous à se faire là derrière. Donc pour moi, l'entraîneur, c'est vraiment ce gars-là, ce gars qui réussit à aller piocher partout et qui a souvent une grosse base de compétences initiales. C'est pourquoi aussi, des fois, j'ai un peu de mal avec le fait de dire, OK, il est ancien joueur, donc il est forcément entraîneur compétent. Pour moi, ça a vraiment aucun sens parce qu'un ancien joueur a des compétences technico-tactiques qui sont évidentes, il a une compréhension du jeu, pour le coup on ne peut pas lui le reprocher, c'est vraiment un élément hyper intéressant, mais il doit compléter ça par beaucoup de choses, par du management s'il veut être head coach, par une approche plus anatomique et physiologique de l'effort s'il veut être préparateur physique, par des compétences au niveau de la compréhension psychologique d'un athlète s'il veut être préparateur mental. On ne s'invente pas préparateur physique, on ne s'invente pas préparateur mental, pardon, et on ne s'invente pas entraîneur head coach, notamment à haut niveau où il y a beaucoup de pression, où il y a énormément d'enjeux. Pour moi, c'est une aberration, ça. C'est pour ça qu'on retrouve aujourd'hui certains entraîneurs qui ont des difficultés, je pense, à gérer leur projet, puisqu'ils n'ont pas forcément eu ce socle-là. Et à l'inverse, on a d'autres entraîneurs qui sont hyper bons au niveau management, enfin, tous les facteurs adjacents, mais qui, par contre, ont un peu moins de précision sur les aspects expérience de terrain, puisqu'ils n'ont pas été joueurs de haut niveau, ou parce que voilà, il y a d'autres limites. Donc je pense que c'est un fin équilibre entre les deux, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un profil qui est mieux que l'autre, ou peu importe, c'est pas ça que je veux dire. C'est qu'en tout cas, pour moi, l'entraîneur expert, c'est quelqu'un qui a vraiment des compétences sur l'ensemble des différents champs disciplinaires que représente la performance. Et c'est quelque chose qui va et amené à se développer. Il me semble qu'il y a pas mal de coachs, notamment au Portugal, qui dans le foot, qui ont des doctorats et qui sont devenus coachs professionnels en football et qui ont des compétences plurielles sur énormément d'éléments. Ils ont forcément, parce que c'est ce que le doctorat amène, une prévalence sur un sujet très précis et des compétences sur un sujet très précis. Mais forcément, de par leur cursus, ils ont des compétences plurielles et une compréhension holistique du projet de performance. Et ça, c'est pour moi la clé de l'entraîneur 2.0. Et quand je dis entraîneur, je parle encore une fois du préparateur physique, de l'entraîneur, du head coach, de l'assistant coach, parce qu'on est tout le temps dans la communication, dans un staff, ou même auprès des athlètes, et réussir à comprendre l'ensemble en ayant un champ d'intervention plus précis, et ben, pour moi, c'est la clé de la performance individuelle en tant qu'entraîneur, mais également en tant que coach. Donc, en tant que staff, pardon. Donc voilà pour la première partie. Maintenant, je vais revenir un petit peu plus du coup sur l'autre versant, c'est-à-dire l'athlète expert et ce que j'entends par athlète expert. On entend souvent que les sportifs de haut niveau, enfin, moi je l'ai déjà entendu, sont experts de fait, dans le sens où ils sont athlètes professionnels, ils sont sportifs professionnels, payés pour faire pour faire leur sport. Donc, ils sont athlètes experts. Et pour moi, c'est une vraie incompréhension. Du métier de sportif professionnel. Puisque pour être sportif professionnel, il faut des qualités, il n'y a pas de discussion, des qualités spécifiques sur une discipline spécifique, parfois des qualités qui ont demandé énormément de travail, parfois des qualités un petit peu plus intrinsèques, la part génétique est quand même quelque chose qu'on ne peut pas renier. Mais en tout cas, voilà, ils arrivent à un stade où ils sont devenus professionnels. De l'autre côté, on a des sportifs qui ne sont pas professionnels. Je pense notamment au sport d'endurance, au triathlon, ce genre de sport où il n'y a pas forcément beaucoup de sous. Donc des disciplines où il n'y a pas beaucoup de sous, où les athlètes doivent donner et mettre un engagement total s'ils veulent aller sur des grosses compétitions, ou même s'ils veulent réaliser des performances d'ultra-endurance, par exemple. Et donc on va considérer que ces sportifs ne sont pas des sportifs professionnels, parfois même qu'on va les considérer non sportifs de haut niveau. Mais par contre, pour moi, ça va être des athlètes qui sont experts. Alors pourquoi? Tout d'abord parce que déjà, pour moi, l'expertise d'un athlète, elle est forcément représentative de son niveau dans le sport. Évidemment, on n'est pas expert si on joue à un niveau, à un bas niveau, on va dire, et qu'on n'a pas de réussite dans son sport. Mais pour moi, ça, c'est qu'une partie de l'expertise d'un athlète, c'est-à-dire l'expression corporelle, l'expression psycho, la mise en lien des différents éléments, du mouvement, etc., sur le terrain. Ça représente évidemment une expertise et ça témoigne d'une expertise, c'est-à-dire qu'un sportif, je prends le cas du volley, une attaquante au volley qui joue au plus haut niveau, elle a forcément une expertise dans son domaine précis, c'est-à-dire que sur les quelques domaines moteurs qui lui sont incombés, elle est efficiente sur la compréhension de ce qu'on lui demande, elle est efficiente normalement, et sur l'expression athlétique de ce qu'on lui demande, elle est également efficiente. Donc forcément, il y a une part d'expertise. Par contre, il se peut, et moi je l'ai vu malgré mon jeune âge, je l'ai vu plusieurs fois, qu'on se retrouve face à des athlètes qui sont experts de leur sport, mais qui à côté de ça, pour moi, ne représentent pas ce qu'est être un athlète expert, c'est-à-dire un athlète qui comprend son process de performance. Je veux dire, en ce sens, pour moi, un athlète expert, c'est un athlète qui va demain réussir à comprendre son projet de performance. Et ça rejoint un petit peu ce que je disais sur les entraîneurs, c'est-à-dire c'est un athlète qui va réussir à prendre en considération les éléments psycho, les éléments physio, les éléments technico-tactiques, son lifestyle, et comprendre que ok, l'expertise, pardon, la performance à haut niveau, c'est ça, 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 et ça demande ça, ça, ça. Et ça demande du coup, je pense pour moi, beaucoup de curiosité et savoir aller piocher les bonnes informations. Parce que c'est pareil, aujourd'hui, on est dans un monde où il y a beaucoup d'informations à droite à gauche, et finalement, c'est facile de se retrouver avec des informations pardon, qui sont un peu caduques, et du coup développer entre guillemets une approche qui n'est pas forcément pertinente de son propre entraînement, de son propre lifestyle. On a beaucoup d'athlètes qui ont des modes d'alimentation qui sont plus de l'ordre de l'idéologie que de l'efficacité nutritionnelle, avec les différents régimes qu'on peut voir, les différents modes d'alimentation qu'on peut voir, parce qu'on lui a dit oui, moi je suis expert nutrition, je te dis il faut que tu fasses ce régime paléo, c'est ça qui t'amènera à la performance, ou cette diète cétogène, c'est ça qui t'amènera à la performance. Or, on sait aujourd'hui que c'est la nutrition, pour donner l'exemple de la nutrition, il n'y a pas d'idéologie, c'est à adapter en fonction de chacun, en fonction du profil de chacun. Et donc pour moi, l'athlète expert, c'est celui qui réussit à comprendre ça, qui prend de la distance par rapport à son projet de performance et qui arrive à se nourrir des différents intervenants qu'il a autour, et notamment des entraîneurs qu'il a, pour pouvoir se construire lui-même son propre projet de performance, c'est sa propre idéologie de la performance qui, pour le coup, en ce sens, sera plus pertinente que simplement écouter à droite à gauche sans avoir du recul sur ce qu'on va nous apporter. Parce que pour moi, il y a beaucoup de manières de voir la performance sur tous les sujets. Et l'athlète qui comprend l'ensemble de ces éléments-là et qui arrive à construire cela et du coup construire également son projet sur le terrain, c'est vraiment l'athlète 2.0. Finalement, pour moi, l'athlète 2.0, c'est l'athlète qui va avoir fait un, aura fait un BTS diététique, aura fait un master entraînement et performance sportive, aura fait des études de kiné, aura fait des études de management, aura fait des études de prep je sais pas, gestion de ses émotions, aspect psychologique. Enfin, en tout cas, un athlète qui aura passé 25 ans à s'entraîner et à côté en parallèle à faire des études. Alors, je sais que c'est utopique et que ce n'est pas possible, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est un athlète qui comprend en profondeur son projet de performance. Et c'est pas ce qu'on retrouve forcément toujours à haut niveau, avec parfois des athlètes qui se font un peu, qui se laissent porter, parce que depuis qu'ils sont jeunes, on les a portés, on leur a dit de faire ci, ça, ça, et ils n'ont pas forcément pris à bras le corps leur projet, ils ont plutôt subi un petit peu ce qu'on leur a demandé de faire, tu vois, qui n'ont pas mis de sens. Pour moi, un athlète qui a 30 ans ne comprend pas sa préparation physique, ne comprend pas sa nutrition, ne comprend pas son approche mentale, c'est un athlète qui est passé à côté finalement de son projet. Alors, ça a peut-être heurté certains et c'est pas méchant. C'est simplement qu'aujourd'hui, en 2023-2024, on arrive à un stade où il y a tellement de ressources, et accessibles en plus, et pertinentes. Alors, il faut réussir à faire la part des choses, mais souvent pertinentes, qu'on peut se construire son propre système, en fait. Et c'est vraiment ça que moi je vois lorsque je vais dire athlète expert. Et c'est pour ça, ce que je vous disais juste avant, pour moi, un athlète qui n'est pas professionnel et qui va faire un Ironman, par exemple, et qui optimise tout, sa nutrition, son entraînement, qui a fait appel à un coach particulier alors que lui-même n'est pas du tout professionnel, et qui finalise son projet de performance en ayant accumulé un nombre de compétences et de connaissances sur l'aspect de la performance, sur les aspects de la performance, pour moi, ça, c'est un athlète qui est tout autant expert qu'un athlète professionnel payé pour faire son sport, mais qui ne met pas de sens dans sa pratique quotidienne et qui se laisse porter par les staffs, par les clubs et qui, voilà, subit un petit peu sa carrière. Je parle vraiment de l'aspect projet. Je parle pas de subir sa carrière en mode il fait pas les choix qu'il veut. C'est pas ça que je veux dire. C'est vraiment compétence pour la performance. Donc voilà, moi, c'est vraiment un truc sur lequel, en tout cas, ça me donne à cœur de vous parler parce que j'aimerais bien avoir des retours pour voir comment vous voyez la chose, mais surtout parce que je considère qu'aujourd'hui on est un peu dans un système, notamment dans les sports collectifs, où on est un petit peu trop éloigné de cette façon de voir les choses. Il y a beaucoup d'athlètes qui sont pas forcément éduqués, et finalement c'est aussi le rôle des entraîneurs, et ça rejoint ce que je disais avant, il faut aussi que les entraîneurs soient éduqués pour pouvoir éduquer les athlètes. Mais pour moi, enfin non, il y a des athlètes qui sont moteurs de leur projet de performance, d'autres qui sont un peu moins moteurs. Et je suis persuadé qu'un athlète n'exploite pas tout son potentiel s'il ne réussit pas à construire ce projet-là, puisqu'un athlète qui peut être très fort physiquement, si en plus de ça, il est très fort au niveau connaissance de la performance et que c'est pertinent, bah pour moi, il va dépasser toutes ses. Il va savoir se gérer, mieux gérer tous les facteurs de la perf, sa récup, mieux gérer ses aspects psychologiques. Et faire face aux contraintes et au stress quotidien qu'on va lui exposer. Et pour moi, ça, c'est l'athlète ultime, c'est l'athlète qui exploite à 100% son potentiel. Et on retrouve un peu ça dans les sports individuels, dans certains sports individuels notamment. Je vais prendre l'exemple de Kevin Mayer. Alors, je suis pas au fait de est-ce qu'il est vraiment dans ce process-là, mais en tout cas, de ce que j'ai pu voir de lui, il y a cette approche-là, cette compréhension de son sport, cette compréhension de sa préparation physique, la compréhension de ses éléments psychologiques. Et la compréhension de tout son lifestyle. Et il n'est pas arrivé du jour au lendemain en disant OK, je sais tout, c'est pas ça. Il a été accompagné, il a eu un préparateur physique, Jérôme Simien, qui, je pense, lui a apporté énormément. Il a eu, je pense, là je m'avance un peu, mais sûrement des apports au niveau psychologique, mental, avec des préparateurs mentaux compétents. Il a eu un entraîneur athlétique, enfin, en tout cas, un entraîneur de décathlon et des entraîneurs spécifiques du décathlon qui sont très performants. Je sais, par exemple, qu'il a été. S'entraîner avec des spécialistes, par exemple de la PR, spécialistes voilà, des épreuves qui font partie de sa discipline à lui, pour pouvoir s'améliorer. C'est vraiment ça pour moi l'athlète ultime, c'est l'athlète qui cherche à s'améliorer et à comprendre, faire un process de compréhension de l'ensemble des systèmes pour derrière finalement réussir à se gérer tout seul. Pour moi l'athlète ultime c'est l'athlète qui a besoin de personne, qui sait gérer sa prépa physique, qui sait gérer sa prépa mentale, qui sait gérer sa nutrition et qui, de par des années de compréhension, de recherche, etc., de prise de recul, optimise tout son processus de performance. Et pour moi, ça, c'est vraiment l'athlète ultime. Donc, ça rejoint finalement un petit peu mon approche sur l'entraîneur qui, pour le coup, a un petit peu ce même process, mais du coup, sans la pratique derrière en tant qu'athlète. Mais c'est un peu la même chose. Et finalement, pour moi, on peut faire une vraie distinction entre athlète expert, ou en tout cas, après, il y a différentes nomenclatures. Après, c'est que des mots, on va choisir certains mots pour exprimer des choses, mais pour moi, ça, c'est un vrai athlète expert, bien plus que simplement dire, OK, t'es athlète expert parce que t'as fait 10 000 heures de pratique, parce que t'as gagné d'un niveau international, parce que, évidemment, c'est une expertise et on peut pas le nier, mais moi, c'est une autre approche de l'expertise que je voulais mettre en avant aujourd'hui. Et je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant à prendre en considération et dans l'éducation des jeunes qui mérite d'être approfondie si on souhaite faire des athlètes du futur qui seront des athlètes 2.0. Voilà, c'était un petit peu tout ce que je voulais vous dire ce soir. J'espère que vous allez comprendre, parce que j'ai dit beaucoup de choses pêle-mêle, prendre du recul. Le but n'était vraiment pas de cibler et de dire oui, ça c'est pas le bon entraîneur ou ça c'est pas le bon athlète, c'est pas du tout ça. C'est simplement d'avoir une réflexion autour de comment construire un entraîneur performant et 2.0 et un athlète performant expert 2.0 aussi. Et je pense que ça fera écho chez pas mal d'entre vous. Et en tout cas, ça pourra peut-être éveiller au moins certains questionnements chez chacun. Et si jamais vous voulez échanger avec moi là-dessus un petit peu plus, me faire un retour de votre avis, de votre approche là-dessus, je suis vraiment preneur parce que c'est vraiment un secteur qui, moi, m'intéresse également, cette espèce de philosophie un peu de l'entraînement et de comment on aborde cette vision de la performance un petit peu holistique. Voilà, n'hésitez pas à partager le podcast si ça vous a plu, si vous avez trouvé ça intéressant. Le partager, commenter, mettre les étoiles sur les différents réseaux, notamment Apple Podcast, parce que ça donne de la visibilité au podcast et je trouve ça hyper sympa pour moi parce que c'est du travail, mais surtout parce que plus on partage, plus on amène un petit peu aussi des échanges dans le monde francophone de la performance et du sport plus globalement. Et je trouve ça hyper intéressant. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne continuation et on se retrouve pour le prochain épisode. Normalement, un épisode qui sera un épisode sous format interview avec un invité de marque qui devrait plaire à la plupart d'entre vous. Allez, à plus.